Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en hommage à Bernard de Montréal, décédé aujourd'hui même, 15 octobre 2003, voici quelques extraits de la conférence qu'il nous a accordée au Cégep Maisonneuve à Montréal, en septembre 1982, intitulée « Les lois de la mort ». Bernard de Montréal, on s'est laissé le mois dernier sur une conférence qui s'intitulait « Les lois de l'incarnation » pour parler maintenant des lois de la mort. Et vous nous avez même dit que les lois de la mort sont les lois qui sous-tendent la psychologie humaine. Les lois de la mort sont-elles tout simplement la peur que l'être humain a de la mort, qui fait que cette peur de la mort le domine? Et le dominant, tout ce qu'il agit, ce qu'il fait dans son comportement qu'on appelle la psychologie, n'est qu'une résultante automatique de cette peur de la mort.
Le phénomène de la mort, c'est un phénomène qui est totalement incompris de l'homme. Il y a certaines personnes qui ont fait certaines expériences qui leur a donné une idée, une certaine perception du phénomène de la mortalité, des morts cliniques, par exemple. Mais le phénomène de la mort, ça va beaucoup plus loin que ça. Le phénomène de la mort, d'abord, existe chez l'homme parce que l'homme n'a pas accès aux dimensions immatérielles qui sous-tendent son psychisme. L'homme a accès seulement à la dimension matérielle de ses sens, de sorte que toute l'infrastructure de l'homme, le domaine de l'homme, il ne le connaît pas. Et l'homme, l'expérience biologique de l'homme, l'expérience mentale, émotive, vitale de l'homme, est sous-tendue par un psychisme qui est relié à différentes dimensionnalités, différentes dimensions. Et ces dimensions, pour que l'homme les vive, pour que l'homme les connaisse, il faut qu'il ait dépassé les notions de sa nature humaine et aussi qu'il ait dépassé le pouvoir de l'âme sur sa nature humaine. L'homme est encore très près de la conscience animale à cause de son corps astral. Et la conscience animale de l'homme crée chez lui une très grande crainte de ce qui est au-delà des sens, parce que dans la conscience animale de l'homme, dans la conscience astrale de l'homme, dans la régionalité du psychisme humain où l'âme a un pouvoir énorme sur l'homme, sur son esprit, il est impossible à l'homme de connaître véritablement ses dimensions comme il peut connaître les dimensions matérielles. L'homme aujourd'hui, sur le plan matériel au XXe siècle, est suffisamment protégé psychologiquement dans sa recherche du matériel parce que il a exploré la planète et là il commence à explorer un peu les astres. De sorte que l'homme perd petit à petit la crainte du cosmos matériel. Mais l'homme n'a pas encore pénétré dans la recherche du cosmos invisible. Et comme il n'a pas commencé sa recherche dans le cosmos invisible, parce que il fallait qu'il soit préparé, que mentalement il soit équipé, émotivement équipé, vitalement équipé, il s'adonne qu'à la fin du XXe siècle, l'homme commence à être pas mal prêt à explorer ces dimensions du cosmos invisible, qui fait partie de lui, qui fait partie de la nature, de l'univers. Et à l'intérieur de ce cosmos invisible existe une infrastructure qu'on appelle le monde de la mort, qui n'est en fait qu'un espace restreint du cosmos invisible. Le monde de la mort n'est pas aussi vaste que les hommes pensent. Les hommes ont tendance à penser que le monde de la mort, c'est un monde qui est très vaste en espace, un peu comme le monde matériel. Et ça, c'est une erreur qui provient du fait que, aussitôt qu'on interprète quelque chose qui est plus ou moins spirituel, occultes ou plus ou moins spirituelles ou plus ou moins du domaine de l'esprit ou plus ou moins du domaine de l'invisible, on a tendance à y donner une dimensionnalité presque infinie. Et ça, c'est une erreur, c'est une projection dans le domaine de la philosophie ou de la notion psychologique qui provient de notre incapacité de nous restreindre au niveau de la notion pour nous permettre de pénétrer dans le domaine pur du savoir, mais par des moyens et par des chemins qui n'appartiennent pas à l'intellect. De sorte que, aussitôt que nous interprétons le domaine de la mort, nous l'interprétons en fonction de notre psychologie humaine, au lieu de le savoir, de le connaître, soit par expérience directe ou soit par relais télépathique avec des intelligences qui font partie déjà de ces domaines multidimensionnels du cosmos invisible et qui connaissent très bien le monde de la mort et les lois de ce monde et pourquoi l'homme est assujetti à ce monde et ainsi de suite et qu'est-ce qui se passe dans ce monde, que font les êtres dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a d'intégral dans ce monde psychiquement. Alors, parce que l'homme n'a pas accès expérimentalement au monde de la mort, parce que l'homme commence un peu, à la fin du 20e siècle, à expérimenter une dimensionnalité de son psychisme qui va au-delà des sens, automatiquement, le monde de la mort, pour lui, c'est un monde qui est totalement inconnu et qui crée de la crainte, parce qu'on craint toujours ce qu'on ne connaît pas, et aussi à cause du fait qu'il y a eu, au cours de l'histoire de l'homme, des manifestations entre le monde de la mort et le monde de la matière, qu'on interprète ces manifestations-là selon les doctrines auxquelles on appartient, comme le phénomène poltergeist, ou le phénomène des fantômes, ou le phénomène des communications spirites, ou quoi que ce soit, ou les rêves, et ainsi de suite. Bon. Mais, il y a dans l'homme une dimension d'intelligence qui est très grande, très vaste. Et cette dimension d'intelligence fait partie de l'homme. Elle est aussi intégrale à l'homme que son intellect, que sa mémoire. Et pour que l'homme puisse bénéficier de cette intelligence qui fait partie de lui, auquel il a accès naturellement, par voie naturelle, il faut qu'il puisse reconnaître quelque part dans son évolution, quelque part dans le temps, quelque part entre la cinquième sous-race qui existe aujourd'hui et la sixième race mentale qui vient demain, il faut que l'homme, à un certain moment, puisse faire le saut, lui permettant de communiquer et de parler avec ses plans d'intelligence. Et une fois que l'homme peut commencer, au niveau de son ego, parler avec ces intelligences-là, il peut commencer à comprendre le monde de la mort, et ces intelligences-là peuvent changer la trajectoire naturelle de son déplacement dans l'astral lorsqu'il est en sommeil, et ces intelligences peuvent l'amener dans le monde de la mort et lui faire reconnaître le monde de la mort, non pas par la réflexion de la mémoire de l'âme, mais par directe immersion dans les éthers du mental des intelligences qui dominent et qui contrôlent ces mondes-là, à l'insu des mémoires et des personnalités qui sont prisonnières du temps dans ces mondes-là, qu'on appelle le monde des morts. De sorte que c'est un peu comme un homme qui va aller... Un homme qui voudrait connaître les mécanismes d'une corporation, d'une très très grosse corporation complexe, au lieu de passer par le balayeur ou par le type qui s'occupe des déchets dans la corporation, s'il va directement au président, le président va lui montrer comment ça fonctionne la corporation. Et pour comprendre le monde de la mort, c'est de la même façon. L'homme doit avoir accès à de l'intelligence, il doit être dans l'intelligence, il doit pouvoir communiquer télépathiquement à l'intelligence et ne jamais couper la communication avec elle quand il est sur ces plans-là. Et à ce moment-là, il peut commencer à lentement explorer le monde de la mort et à comprendre le monde de la mort comme les morts ne le connaissent pas. Les morts ne peuvent pas connaître le monde de la mort parce que les morts sont prisonniers du monde de la mort. Un peu comme l'homme ne peut pas connaître complètement le monde de la matière parce qu'il est prisonnier de la matière. Pour que l'homme connaisse, comprenne le monde de la matière, il faut qu'il sorte de la matière, il faut qu'il sorte de l'emprise de ses sens, du corps astral, sur lui. Et à ce moment-là, il peut rentrer dans la conscience de la matière, il peut rentrer dans la conscience du minéral, de la plante, du végétal, de l'animal, et ainsi de suite. Mais si l'homme ne peut pas sortir avec un corps plus subtil, qu'on appelle le double éthérique, le double morontiel, de son corps matériel, il ne peut pas connaître ces mondes, et automatiquement, il a des notions de ces mondes, et ces notions étant limitées, automatiquement, créent la crainte, parce que il ne peut pas comprendre parfaitement ce qui doit être compris parfaitement pour être parfaitement compris. Alors, l'homme est obligé, éventuellement, de dépasser les notions psychologiques de sa pensée et commencer à communiquer télépathiquement avec des intelligences qui sont totalement en dehors de la forme humaine, en dehors de la forme de la pensée de l'homme, qui ne sont pas sujettes aux lois de la mort et qui peuvent facilement expliquer à l'homme deux choses. Que le monde de la mort est un monde, est une dimension, dans lequel la mémoire est conservée pour que plus tard il y ait d'autres incarnations qui pourront permettre une évolution de ce que nous appelons aujourd'hui encore au XXe siècle l'âme. Et deuxièmement, le monde de la mort, il existe parce que les hommes sont inconscients. Et lorsque les hommes se seront conscientisés, lorsque les hommes auront contact télépathique avec l'intelligence, ces intelligences, qui font partie des mondes de l'intelligence, des mondes de la lumière qui sont totalement en dehors de ce que nous appelons encore sur la Terre les ténèbres, autrement dit les mondes de l'ignorance, autrement dit les mondes astraux. À ce moment-là, l'homme est capable de parfaitement comprendre le monde de la mort et il peut commencer à s'en servir. Et comment l'homme se sert-il du monde de la mort? Jusqu'ici, pendant l'évolution des races ou des races racines ou des sous-races de l'humanité, l'homme a été obligé d'être au service du monde de la mort. Et la partie en lui qui est la plus puissante et qui l'a asservi le plus au monde de la mort, c'est l'âme. L'âme ayant une fonction évolutive, l'âme ayant une fonction d'expérience, et l'âme forçant l'esprit de l'homme qui ne vient pas du monde de la mort, mais qui vient des mondes, des constructions architecturales, des mondes de la lumière, forçant cet esprit à être dominé par elle pour qu'il y ait sur le plan matériel une certaine quantité d'expérience qui sert à créer dans le monde de la mort des modèles. Ces modèles devenant avec l'évolution des situations de plus en plus perfectionnées pour que plus tard, au cours de l'évolution, des esprits reviennent des mondes architecturaux, s'intègrent à ces modèles et puissent créer sur le plan matériel des hommes qui sont un peu plus perfectionné. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que, pendant l'évolution, ce que j'appelle, moi, l'évolution, c'est la période de vie sur le plan matériel où l'esprit a été dominé par l'âme. Autrement dit, où l'esprit de l'homme n'a jamais été parfaitement dans son intelligence. Autrement dit, où l'esprit de l'homme n'a jamais été parfaitement intelligent. Autrement dit, où l'homme, dans son ego, n'a jamais pu être absolument dans l'intelligence de son esprit. Autrement dit, là où l'homme, dans son ego, n'a jamais été capable d'être parfaitement sûr d'être sûr. Autrement dit, là où, dans son ego, l'homme n'a jamais eu d'idée. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire être absolument sûr de quelque chose? Alors, n'étant ou n'ayant pas cette capacité d'être absolument sûr de quelque chose, et quand je dis absolument sûr, je ne veux pas dire dans une catégorisation valorielle d'être sûr de quelque chose. Je dis être sûr de quelque chose dans le sens d'être sûr d'être sûr. C'est pas assez sûr. Si on est sûr, on peut faire une erreur. Mais quand on est sûr d'être sûr, il faut qu'il y ait intégration entre l'esprit de l'homme et son ego. Et lorsqu'il y a intégration entre l'esprit de l'homme et son ego, l'homme n'appartient plus à la race humaine. Il devient surhomme. Autrement dit, il appartient à une race mentale qui n'est plus régie par les lois planétaires, c'est-à-dire par les lois de l'âme, c'est-à-dire par les lois de l'incarnation, c'est-à-dire par les lois de la réincarnation. Et ça lui permet à ce moment-là, s'il avance de plus en plus dans ce domaine qui est purement énergétique et vibratoire, ça lui permet éventuellement d'avoir suffisamment de pouvoir dans son esprit pour transformer instantanément la nature de son ego mental, émotionnel, vital et éventuellement physique et à un certain point dans son évolution, d'être capable de changer la vibration ou la fréquence atomique de ses corps et de dématérialiser son corps matériel et automatiquement de devenir cosmique au lieu d'être planétaire. À ce moment-là, il devient maître de lui-même, il n'a plus besoin de maître, il n'a plus besoin d'être enseigné, il est dans l'intelligence. Autrement dit, il est dans l'intelligence universelle, dans l'intelligence cosmique, il est dans cette énergie qui canalise vers lui de l'information selon ce qu'il a besoin de savoir pour la construction d'une civilisation ou d'un plan de civilisation sur une planète ou sur une autre, selon les conditions de son mandat sur une planète ou sur une autre. À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de la mémoire d'âme. Il se sert simplement de l'énergie de l'âme. Et dans ce processus, la mémoire d'âme a été détruite et le pouvoir de la mort est totalement réduit et éliminé et l'homme ne peut plus mourir. Non pas parce qu'il ne veut pas mourir, mais parce qu'il ne peut plus mourir. Autrement dit, autant le syllogisme de Socrate avait de la validité pour les hommes qui vivaient une conscience expérimentale pendant l'évolution, parce que les hommes voyaient bien que, étant mortels, ils mouraient, autant dans la prochaine évolution, le syllogisme de Socrate n'aura aucune valeur, parce que l'homme, qui sera sur le plan matériel, saura et aura le pouvoir de transmuter son corps matériel et de neutraliser la valeur philosophique et psychologique de ce syllogisme et automatiquement de mettre la philosophie cartésienne occidentale d'origine judéo-chrétienne ou grecque ou romaine ou européenne par terre. Ce sera la destruction finale de la philosophie et lorsque la philosophie sera totalement détruite, la psychologie automatiquement sera renaissante, c'est-à-dire que la psychologie sera obligée de se regarder en face et de recontempler les bases fondamentales de son esprit au lieu de contempler les bases psychologiques et simulatives de sa psychologie symbolique, de sorte que l'homme sera totalement libre de la symbologie, il sera libre automatiquement de la psychologie, et étant libre de la symbologie psychologique, il sera capable de créer une nouvelle psychologie qui sera la psychologie de la conscience supramentale. Et à ce moment-là, l'homme, étant dans son esprit, c'est-à-dire étant dans son intelligence, pourra se servir de son ego pour bénéficier de l'esprit, et à ce moment-là, il sera capable de comprendre le monde de la mort et visiter le monde de la mort et s'apercevoir que dans le monde de la mort, il n'existe que de la mémoire et que toute mémoire qui n'est pas personnifiée n'a aucune valeur parce qu'elle n'est pas capable d'être ressuscitée par l'esprit. Elle doit être ressuscitée en fonction de la pénétration de l'esprit dans l'âme, de l'union de l'esprit avec l'âme, et c'est ce que nous appelons la réincarnation.
Pourquoi l'âme qui vient revivre dans un corps, ne transporte-t-elle pas avec elle toute la mémoire? Pourquoi oublie-t-on ce qu'on a vécu avant?
L'âme, elle est toute sa mémoire, mais l'homme ne peut pas vivre toute la mémoire de l'âme à cause de ses émotions. Dans le monde de la mort, il y a 5 plans. J'appelle ça des plans, mais ce ne sont pas réellement des plans, ce sont des régions. Il y a le plan de la mémoire pure, il y a le plan de la mémoire partielle, il y a le plan de la mémoire contrôlée par le monde des esprits ou le monde de la lumière, il y a le plan de la mémoire maudite et il y a le plan de la mémoire nouvelle. La mémoire nouvelle étant le plan de vie de l'individu lorsqu'il revient sur le plan matériel. Et les hommes n'ont accès qu'au plan de la mémoire nouvelle. De sorte que les hommes, quel que soit leur passé, n'ont pas accès à leur expérience. Et s'ils avaient accès à leurs expériences sur le plan psychologique, il y aurait trop d'énergie dans l'ego de l'homme et l'homme serait automatiquement débalancé. Alors l'homme, pour ne pas souffrir dans son incarnation des expériences antérieures, il lui donnait seulement le plan de la mémoire nouvelle, et avec cette mémoire nouvelle, il peut travailler, il peut grandir, il peut créer une société, il peut progresser comme nous le faisons. S'il y a trop des autres mémoires, il y a des failles qui se créent dans l'ego, c'est comme dans le cristal, il y a une craque, et automatiquement, éventuellement, il y a une fissure qui se rallonge, et l'homme peut devenir débalancé, déséquilibré dans sa personnalité, ainsi de suite. C'est pour ça que nous remarquons souvent chez les gens qui ont des personnalités qui manquent totalement d'intégration, qu'il y a énormément de mouvements entre leur personnalité ou leur psychisme actif et dynamique ici et une infrastructure inconsciente qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ça fait partie des autres mémoires. Alors l'homme ne peut, pour que l'homme puisse bénéficier de toute sa mémoire, il faut qu'il ait changé au niveau du mental suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'émotion dans son mental. Alors, lorsque le plan astral et le plan mental sont très très bien séparés chez l'homme, à ce moment-là, il peut commencer à bénéficier, si vous voulez, de toute sa mémoire. Il peut travailler avec l'énergie de cette mémoire, mais à ce moment-là, il a suffisamment de discernement. Il y a suffisamment d'équilibre entre l'émotion et le mental pour que cette mémoire ne le détruise pas. Il y a des gens dans le monde qui ne sont pas capables d'aller dans un élévateur parce qu'ils ont eu dans le passé des chutes terribles. Il y a des gens qui ne sont pas capables aujourd'hui de souffrir le feu, qui ont une crainte du feu. Pourquoi? Dans le passé, ils ont vécu des expériences pénibles où ils ont brûlé dans des maisons, où ils ont été brûlés sur des bûchers, ainsi de suite. Alors, la mémoire, tant que l'homme n'est pas suffisamment évolué et tant que l'utilisation totale de son cerveau n'est pas réallumée par le contact de l'esprit sur les neurones, ne peut pas absorber cette énergie et automatiquement pour le protéger, et cette protection ne vient pas du monde de l'âme, elle vient du monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit, c'est la haute hiérarchie dans les mondes de la lumière qui contrôle ce qu'un homme peut rapporter de mémoire lorsqu'il vient sur le plan matériel. Et à partir de ce moment-là, il y a un équilibre plus ou moins sain et l'homme peut évoluer. Mais lorsque fusion se fait avec ses intelligences et que la mémoire de l'âme, elle est détruite et qu'il ne reste que l'énergie de l'âme, parce qu'une fois que l'homme est fusionné avec ses intelligences, il n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, il a une plus grande mémoire encore et une mémoire qui va autant dans le passé que dans le futur. Et à ce moment-là, l'homme, dans son esprit, il est protégé de la destruction par le fait qu'il y a fusion entre ses intelligences et lui. Et à ce moment-là, il peut absorber leur intelligence qui devient pour lui de la mémoire cosmique. Et à ce moment-là, il travaille et ça devient pour lui de l'intelligence. Mais il n'a plus besoin d'aller mémoire d'âme et parce qu'il n'a plus besoin de travailler en fonction du passé, il travaille simplement en fonction de l'avenir, autrement dit, simplement en fonction de la créativité.
Les communautés des saints, qu'on appelle, ou les cœurs des anges, ou toutes ces notions qu'on retrouve, mais collectives, sont-elles associées au fait que l'être qui vit sur la terre une vie est obligé de revenir vivre encore une fois sur la terre, ou peut-il s'échapper de ces collectivités?
L'être qui vit, qui vient... Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. L'être qui vient sur la terre est obligé de vivre un certain nombre de fois, de revenir un certain nombre de fois, à moins qu'il y ait un monde particulier. Mais en général, les hommes qui viennent sur la terre par incarnation doivent venir un certain nombre de fois pour développer une certaine expérience. Et quand nous parlons de ces collectivités comme la communion des saints ou la communion des anges, et ainsi de suite, ces collectivités appartiennent à différents mondes. Il y a une très grande différence d'intelligence dans la communion des saints et la communion des anges. Les anges, ce que nous appelons des anges, nous, sur le plan matériel ici, dans le fond, ne sont pas des êtres qui ont participé à l'évolution, ce ne sont pas des êtres qui ont connu le corps matériel. Tandis que les saints ont connu le corps matériel. Et les saints, ce sont des êtres de haute vibration, des êtres suffisamment évolués pour appartenir à cette catégorie d'évolution. Mais, les saints et les anges ont un rapport suffisamment étroit dans les cosmos parce que ce que nous appelons les saints, ces êtres, ont une capacité de recevoir cette énergie, cette lumière. Et ce que nous appelons les anges, qui en fait n'est qu'une hiérarchie extrêmement intelligente, extrêmement variés, faisant partie du monde mental, ces êtres se servent des saints pour corriger l'actualisation personnelle du pouvoir de l'âme dans chaque individu. Autrement dit, la fonction des saints, c'est d'empêcher sur la terre qu'il y ait un dérèglement trop brutal à cause de la nature animale de l'homme, des voies inspirationnelles de l'évolution, de sorte que les saints sont un peu comme une police spirituelle dans les mondes de la mort. Mais les saints ne sont pas intelligents. Les saints sont des mémoires, des hautes mémoires, de bonnes mémoires, de grandes mémoires expérimentales de la conscience humaine, mais ils ne représentent pas le principe de l'intelligence. Le principe de l'intelligence n'appartient jamais à des êtres qui ont des formes matérielles évolutives. Le principe de l'intelligence, vous savez, si on dit qu'est-ce que c'est de l'intelligence, les gens se demandent qu'est-ce que c'est de l'intelligence. De l'intelligence, c'est pas de l'intellect. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? De l'intelligence, c'est une énergie qui appartient, qui est le produit de, qui est créé par, qui est manipulé par certaines intelligences. Nous sommes obligés de les appeler des intelligences parce que le produit de leur activité créative, c'est de l'intelligence. C'est pourquoi nous les appelons des intelligences. Et ces êtres, lorsqu'ils sont en relation avec ce que vous appelez la communauté des saints, permettent de corriger sur le plan matériel des erreurs possibles dans l'évolution. mais seulement si les hommes qui sont au bout de la ligne sont suffisamment sensibles au niveau conscience, au niveau des mœurs, au niveau de leur psychologie, au niveau de leur état psychologique, suffisamment sensibles par les formes qui existent dans une civilisation ou une autre, de répondre aux données inspirées par ces êtres-là à travers l'orientation que leur donnent les intelligences cosmiques. Autrement dit, les saints sont des travailleurs, sont des mémoires. Et quand je dis qu'ils sont des mémoires, je dis qu'ils sont des mémoires. Il ne faut jamais s'imaginer qu'un homme qui meurt aujourd'hui, qu'il soit saint ou pécheur, lorsqu'il retourne de l'autre côté, il ne faut pas s'imaginer qu'il a la personnalité que nous avons aujourd'hui. Parce que son esprit n'est plus là. Aussitôt qu'un homme meurt, il perd son esprit. Son esprit s'en va dans les archives universelles, il est étudié pendant très longtemps, et on regarde si son esprit a évolué, s'il y a des failles dedans, et ainsi de suite, et ensuite on le ramène pour une autre incarnation. Tandis que tout ce qui reste dans les mondes astraux, dans le monde de la mort, ce n'est que la personnalité, autrement dit la partie astrale de l'homme. Et cette partie astrale, c'est cette partie avec laquelle nous communiquons, et c'est cette partie que nous voyons lorsque nous visitons le monde des morts, et ces parties sont toujours, ont toujours la vibration qu'elles avaient sur le plan matériel. Alors, si sur le plan matériel, la personne était grande, elle est grande. Si elle était petite, elle est petite. Et automatiquement, ces parties, ces parties astrales, ces coques, ces personnalités qui n'ont aucune vie, mais qui ont de la mémoire, sont les êtres, en parenthèse, avec lesquels nous semblons communiquer lorsque nous communiquons avec eux. Mais c'est lorsque nous sommes dans l'intelligence que nous nous apercevons qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont que l'expérience que nous avions ici sur la Terre. C'est pour ça que c'est très important dans l'évolution qui s'en vient, que l'homme qui est sur la Terre soit dans l'intelligence autant que s'il était en dehors de la matière. Et c'est pourquoi, et ça c'est important pour l'homme, et c'est merveilleux pour l'homme, c'est que pour que l'homme vive la fusion avec ses intelligences, avec la lumière, il faut qu'il soit dans la matière. Il ne peut pas vivre la fusion dans le monde de la mort. Alors, dans le monde de la mort, les êtres sont obligés de revenir, soit sur la Terre ici, ou sur une autre planète, mais un jour, quelque part dans le temps, ils seront obligés de revenir dans la matière pour qu'il y ait fusion, parce que la fusion ne se fait qu'avec le mortel. Pour le rendre immortel, pour que éventuellement le mortel et la lumière soient un, soient totalement unifiés, pour travailler dans les univers inhabités et construire d'autres plans de création et d'autres civilisations.
Quand on veut l'intervention des âmes, des saints, on les prie. Ils peuvent intervenir, ou même les mauvais esprits interviennent dans des sciences de spiritisme. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec les êtres d'intelligence, les prier pour qu'ils viennent?
Oui. Je suis content de vous demander cette question. Aussitôt qu'on s'ouvre au monde astral, que ce soit le bas astral ou le haut astral, ou le monde de basse vibration ou de hausse vibration, il y a automatiquement connexion. Ça, c'est bon. Mais il y a une chose, c'est que lorsque nous communiquons avec le monde astral, avec le monde de la mort, nous recevons toujours des pensées qui flattent notre ego. Autrement dit, communiquer avec un être de haute spiritualité, vous allez recevoir une pensée qui flatte votre ego. Communiquer avec un être de basse vibration, vous allez recevoir une pensée qui flatte votre ego. Autrement dit, le monde astral se sert toujours de l'homme pour ses propres bénéfices. Tandis que lorsque l'homme commence à communiquer avec le monde mental, de l'intelligence pure, là, l'ego n'est plus flatté. L'ego est transformé. Et c'est ça qui fait qu'il y a une très grande séparation entre l'involution et l'évolution. C'est très facile, c'est très plaisant de parler avec des mémoires qui sont spirituelles, des maîtres spirituels, des gourous, des seigneurs, toute la patente, là. Mais de parler avec des intelligences qui sont totalement irréductibles, qui n'ont aucune émotion, qui, aussitôt qu'elles commencent à communiquer avec vous, vont neutraliser l'émotivité sur votre mental afin de développer un plan de communication plus parfait avec eux. C'est là que la transmutation de l'ego se fait, et c'est là que l'homme commence à souffrir, et c'est pour ça que très peu d'hommes sont capables d'aller dans cette direction. Et c'est pour ça que les hommes qui entrent, qui vont dans cette direction, vous savez, on dit toujours, toutes les voies mènent à Rome. Il y a une chose que les hommes ne savent pas, c'est qu'à Rome, il y a un chemin. Après toutes les voies, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est la connexion entre l'homme, l'ego, et ses intelligences. Et ceux qui sont capables de vivre cette connexion entre l'homme et ses intelligences sont ces êtres qui éventuellement auront une conscience supramentale et qui éventuellement vivront un changement vibratoire tellement développé sur le plan mental, émotionnel, vital et physique qu'un jour, à un certain moment donné, il y aura fusion plus grande et un jour, ils pourront dématérialiser la matière. Alors, les conditions de communication télépathique ne sont pas les mêmes entre le monde astral et le monde mental. Et un homme qui est le moindrement averti et qui connaît moindrement les lois de l'astral et qui est moindrement dans son intelligence, saura absolument que le monde astral pervertit toujours le savoir pour donner à l'homme de la connaissance. Et que le monde mental, c'est le monde du savoir, et que le monde mental, étant le monde du savoir, détruit toujours la connaissance pour permettre à l'homme de rentrer dans le savoir. C'est ça la destruction des formes.